voici le moment, le générique que vous reconnaîtrez à chaque fois pour cette toute nouvelle émission, l'histoire des féministes par Jacqueline Engrave, une émission donc présentée, préparée et animée par Jacqueline Engrave en partenariat avec Fréquence Mistral. L'histoire des féministes, donc premier numéro aujourd'hui. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile. Très heureuse de vous retrouver, de retrouver les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral après cette période de vacances caniculaires.
Oui, on rappelle que vous avez fait déjà 60 portraits de femmes extraordinaires de notre patrimoine et de tous les continents. Donc oui. C'est un peu une prolongation de l'histoire des féministes, un nouveau format,
une émission mensuelle qui aura lieu tous les premiers mardis du mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre et nous commençons cette première émission, ou ce premier épisode, comme on voudra, par l'explication du titre, l'histoire des féministes. En fait, c'est pour faire à grands traits la rétrospective de l'action des femmes féministes et de ce qu'elles sont, de ce qu'elles furent. Et en sous-titre quand même, l'histoire du mouvement féministe, parce que ces deux histoires sont indissociables, bien sûr, elles sont inextricablement liées. Alors pourquoi ce titre? Je vais expliquer les deux mots, histoire et féministe. L'histoire, parce que si nous ne savons rien du passé, nous risquons de reproduire les mêmes analyses, le déjà fait, le déjà dit, le déjà vu, même actualisé avec d'autres mots, et même de reproduire mêmes erreurs. Et puis parce que, collectivement, nous sommes les débitrices de ce qui s'est passé avant nous, que nous n'avons pas à ignorer, ni à dédaigner, bien au contraire, nous devons nous en inspirer. Et pourquoi des féministes? Eh bien, c'est pour parler des femmes qui ont construit le féminisme, le mouvement féministe, qui sont porteuses de ce mouvement depuis l'origine, mettant en question non seulement un sexe, le leur, mais le rapport entre les deux sexes, les relations entre les deux sexes, bref, les rapports sociaux de sexe. Et cela concerne donc les hommes autant que les femmes. Et en fait, c'est une histoire des hommes et des femmes, une histoire mixte, avec une ambition émancipatrice par la réflexion et par l'action, les deux. Les féministes abordent l'ensemble des problèmes du temps, le travail salarié, le travail domestique, la maternité, l'amour, la séduction, la violence, le pouvoir, la souffrance, les représentations des femmes, le social et le politique, la création artistique ou autre, la manière de penser le langage. Là, je cite Michèle Perrot, historienne, dans son livre « Les femmes ou les silences de l'histoire » 1998, édition Flammarion. Le féminisme existe à travers les féministes. Selon Geneviève Fraisse, philosophe et historienne du XXe siècle, le mot « féminisme » est apparu au XIXe siècle dans le langage médical pour qualifier, c'est un paradoxe, un arrêt de développement et un défaut de virilité chez les sujets masculins. Titiou Lecoq, essayiste, dans son livre magistral intitulé « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », édition L'Iconoclaste 2021, nous apprend que l'on s'accorde en général pour dire que c'est Alexandre Dumas-Fils qui a employé le terme « féministe » pour la première fois, pas pour parler des femmes, mais pour dénigrer des hommes qui défendaient les droits des femmes. Le marquis de Condorcet, par exemple, en 1791, au temps révolutionnaire. Je cite la prose d'Alexandre Dumas-Fils, telle que Titiou Lecoq l'a reproduit dans son livre précité. Donc je le cite. « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent à très bonne intention d'ailleurs, tout le mal vient de ce qu'on ne veut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme et qu'il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu'à l'homme. L'homme abuse de sa force, etc., etc. » Vous savez le reste. Là, c'est toujours Alexandre Dumas-Fils qui parle, c'est pas moi. nous permettons de répondre aux féministes que ce qu'ils disent là n'a aucun sens. La femme n'a pas une valeur égale, supérieure ou inférieure à l'homme, elle a une valeur d'un autre genre, comme elle est un être d'une autre forme et d'une autre fonction. La preuve qu'elle n'est pas aussi forte que l'homme, c'est qu'elle se plaint toujours de ce que l'homme est plus fort qu'elle. Or, si la nature a donné la force à l'homme, c'est pour qu'il s'en serve, comme il doit se servir de tous les dons qu'il a reçus pour l'œuvre qu'il a à faire. Le vocabulaire politique emploie le mot « féministe » pour caractériser les femmes qui, revendiquant l'égalité avec les hommes, semblent vouloir leur ressembler. L'histoire a donné sa préférence à ce sens politique. C'est celui-ci qui s'est imposé. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une féministe ? Il en existe plusieurs définitions qui expriment toutes la même idée, la revendication d'égalité. La définition basique est celle-ci, j'ouvre les guillemets. Une féministe, ou un féministe, puisque nous avons vu qu'il y a des hommes féministes, c'est une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des deux sexes. Ça paraît évident. La définition de Françoise Héritier, anthropologue féministe du XXe siècle bien connue. Je la cite. « Être féministe, c'est une attitude mentale qui revendique l'égalité en dignité des femmes et des hommes et qui revendique que cette égalité soit reconnue dans la vie quotidienne. » Définition à laquelle Simone de Beauvoir, philosophe et femme de lettres du XXe siècle, bien connue, ajoute « Être féministe, c'est une manière de vivre individuellement et une manière de lutter collectivement. » Voici la définition de Geneviève Fraisse, précitée. « Le féminisme se définit comme la protestation des femmes féministes, à l'égard d'une situation d'oppression et l'exigence de transformation de cette condition. » Ou encore, on peut dire, ça c'est plutôt de moi, « Le féminisme, c'est une forme d'humanisme qui s'intéresse plus particulièrement à cette moitié de l'humanité que constituent les êtres humains de sexe féminin assumé. » Aujourd'hui, Annie Sugier, militante féministe de la première heure, nous dit « Aujourd'hui, être féministe, c'est être capable de critiquer sa société. » Aux féministes s'opposent les anti-féministes, qui ont toujours existé, avec une virulence souvent extrême chez les hommes de tous les temps, pour discréditer non pas le contenu des raisonnements des féministes, mais les femmes qui les tiennent. D'après eux, derrière leur plaidoyer en faveur de l'égalité des sexes, il y aurait chez ces femmes, en réalité, je cite, « une haine des hommes et de la sexualité ». Dixit Juliette Rennes, R-E-2-N-E-S, sociologue. L'antiféminisme est bel et bien une opposition farouche aux femmes féministes en tant que porteuses du mouvement féministe. Cette opposition à ses acteurs et même ses actrices et ses médias. Les antiféministes accusent les féministes de ressentiment, de jalousie, d'envie, selon le vieux cliché hostile et largement répandu, plaqué par les dominants sur la révolte des dominés. J'ouvre les guillemets. Si vous êtes insatisfaite, c'est que vous avez du ressentiment, que vous êtes envieuse, disent-ils. Selon Jean-Jacques Rosa, philosophe et maître de conférences au Collège de France, voilà une façon de disqualifier toute colère et l'idée même de la colère. On voudrait rendre illégitime l'indignation, le sentiment de révolte, le haut-le-cœur que provoquent certaines situations d'injustice sociale, de privilèges qui paraissent insupportables dans la société en général. Et ici, ce qui est notre propos aujourd'hui, entre les sexes en particulier. L'action des féministes les amène à l'indépendance vis-à-vis des hommes. Elles peuvent se passer de leur protection. La domination de l'homme sur la femme n'a alors plus de prétexte à s'exercer, et c'est ce qui met en rage les antiféministes, les anti-égalitaires. C'est pourquoi, tout au long de ce récit, en parlant des féministes, nous serons automatiquement amenée à parler des antiféministes dont l'action d'opposition sans cesse renouvelée est virulente, toujours, méchante, très souvent, cruelle parfois. On le verra plus tard avec la chasse aux sorcières. Il peut sembler évident de se dire féministe, car qui serait contre l'égalité des sexes en ce siècle, interroge Geneviève Fraisse. Qui oserait affirmer et argumenter sa préférence pour l'inégalité? Pourtant, certains et certaines distinguent encore soigneusement le féminisme des féministes. L'image caricaturale de la féministe hystérique, moquée, quand elle n'est pas insultée, vilipendée, celle qui jette son soutien-gorge aux orties, geste symbolique évidemment de libération après s'être libérée du corset étouffant et de la crinoline entravante, celle qui est réputée malheureuse en ménage, indépendante mais solitaire, frustrée, celle qui fait presque peur, à l'image du mythe de la sorcière, celle que l'on ne comprend pas, que l'on regarde avec méfiance. Cette mauvaise image perdure même chez des femmes. Le discours sur les femmes indépendantes n'a jamais été approbateur. Il a toujours été teinté de misérabilisme ou de condescendance, dixit Mona Chollet dans « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », édition La Découverte 2018. La thèse martelée et déclinée tient en deux mensonges, dit-elle. Premièrement, les féministes ont gagné, elles ont obtenu l'égalité. C'est pas vrai, elles ont obtenu l'égalité en droit, mais pas en fait. Deuxièmement, maintenant, elles sont malheureuses et seules. Cette seconde assertion ne vise pas à décrire une situation, mais à faire peur, à lancer un avertissement aux femmes. Attention, celles d'entre nous qui osent déserter leur place soi-disant naturelle, traditionnelle, et vouloir vivre pour elles-mêmes, pour leur carrière, au lieu de rester au service de leur mari et de leurs enfants, celles-là travaillent à leur propre malheur. En vérité, cette posture révèle une méconnaissance totale, peut-être même un déni bien commode pour éluder la question et rester dans sa zone de confort, de ce que les féministes apportèrent de positif, non seulement à la cause des femmes, mais à la société tout entière, de ce qu'elles furent, de ce qu'elles sont, en tant que réalité collective socialement efficace. Oui, répétons-le, le féminisme n'existe qu'à travers les féministes.
Retour avec l'histoire des féministes, Jacqueline Engrave.
Oui, alors je reprends. Au lieu de parler du féminisme ou des féminismes, comme on dit aujourd'hui, vu les multiples courants qui s'expriment, nous préférons parler plus globalement du mouvement féministe et des vagues féministes de ce mouvement, des vagues qui se succèdent de décennie en décennie. La métaphore de vague a été utilisée dès 1920 dans un ouvrage texte bilan intitulé « Retour sur la première vague ». Le propre d'un mouvement, c'est qu'il bouge, qu'il est fluctuant, qu'il est flottant. Vous me direz que c'est une vérité de la palisse. C'est qu'il n'est ni contraignant, ni rigide, comme peut l'être une organisation hiérarchisée, qu'elle soit politique, syndicale, associative, religieuse ou simplement administrative. Un mouvement souple, on peut y entrer, mais aussi en sortir facilement. Le mouvement féministe et ses vagues, comme les vagues de l'océan, a lieu simultanément dans plusieurs pays du monde. Dixit Aurore Koechlin, K-O-E dans le haut, C-H-L-I-N, doctorante en sociologie, dans son livre éclairant La révolution féministe, 2019, édition Amsterdam. Ce mouvement s'étale dans l'espace et dans le temps, avance et recule, comme le flux et le reflux. Mais quoi qu'il en soit, comme les vagues de l'océan, il est permanent, indestructible et puissant. Il a ses moments de tempête et ses moments d'accalmie, voire de stagnation, c'est le creux de la vague, annonciateur d'autres tempêtes. Il se heurte à des obstacles, se fracasse contre les rochers. Les rochers des féministes, ce sont les anti-féministes, les institutions et certaines traditions séculaires néfastes, par exemple. Mais il tient bon, il continue. Tout comme l'océan fait reculer les côtes, il fait reculer le patriarcat, c'est-à-dire l'ordre moral, social et sexuel imposé. En cela, il se comporte comme l'histoire avec un grand H et il en fait partie. C'est donc un mouvement historique, mais pas fini, une lame de fond qui a déjà transformé la femme objet de l'homme en femme sujet, égale à l'homme en droit. Ce fut un long processus, toujours en cours, dont nous nous proposons de faire le récit en plusieurs parties ou en plusieurs épisodes chaque mois. Mais ce sera en toute modestie, car on sait bien que, sporadiquement, des historiennes, comme Michèle Perrault, déjà citée dans « Les femmes et les silences de l'histoire », Régine Pernoud, Malka Markovitch, Georges Duby, avec qui Michèle Perrault a travaillé, des philosophes comme Simone de Beauvoir, Geneviève Fraisse, Sylvia Nagasinski, Cynthia Fleury, par exemple, des anthropologues comme Françoise Héritier, des sociologues comme Juliette Rennes ou Pierre Bourdieu, des écrivaines d'hier et d'aujourd'hui, des spécialistes de tous les domaines traversés par le féminisme, des journalistes comme Mona Chollet, Laure Adler et bien d'autres, etc., ont déjà analysé le phénomène. Ces analyses constituent pour nous des sources précieuses dans lesquelles nous puisons sans vergogne, parce que nous n'inventons rien, bien sûr. Le mouvement féministe est national et international. En France, parti de Paris, il s'est répandu dans tout le territoire. On peut dire que lui, il a ruisselé sur tout le territoire. C'est pourquoi les féministes sont partout en France et dans tous les pays. Elles sont partout parce que le patriarcat, c'est-à-dire pour faire court, la domination masculine séculaire sur l'autre sexe, est partout. Et que l'adversaire à contrer, lorsqu'on exige justice et égalité en droit et en fait entre les deux sexes, c'est précisément le patriarcat. Alors comment ? Non pas par la violence, comme s'est imposé le patriarcat, mais par le fait de travailler sans relâche à son dépérissement, dixit Pierre Bourdieu dans son livre « La domination masculine 1998 », afin d'arriver à une véritable révolution culturelle et structurelle de la société, à sa métamorphose et nous verrons comment au cours de cette série d'émissions. Donc, ce qui est visé par les féministes, ce n'est pas seulement l'égalité, c'est l'extinction du patriarcat, de l'ordre social, moral et sexuel imposé depuis le début de l'humanité. Mais qu'est-ce que le patriarcat ? Un mot que l'on entend, que l'on emploie, mais il ne nous semble pas inutile de rappeler ce qu'il veut dire, ce qu'il recouvre en fait. Prenons le dictionnaire. D'après le dictionnaire, le patriarcat est une organisation de la société d'abord familiale, fondée sur la transmission du nom de famille, de père en fils, de mâle à mâle, et dans laquelle le père exerce en maître une autorité soit exclusive, soit prépondérante, et où le fils a une valeur, elle aussi, prépondérante, par rapport à ses sœurs qui, elles, n'ont qu'une valeur relative, comme la mère. Le patriarcat affirme comme un dogme. Alors, un dogme, selon le dictionnaire, c'est un principe de base déclaré incontestable, ne souffrant aucune critique. Donc, il affirme comme un dogme l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Dogme renforcé, efficacement dans toutes les têtes, par les religions monothéistes qui affirment la même chose. Et pourtant, au commencement de l'humanité, et ceci se passait en des temps très anciens, ça c'est un alexandrin de Victor Hugo, la femme était respectée, crainte, vénérée pour son pouvoir naturel, mais inexpliqué, donc mystérieux, dépassant l'entendement des hommes de l'époque, de donner la vie, de produire des petits êtres vivants, mâles aussi bien que femelles. Ce que Françoise Héritier appelle, en se plaçant du point de vue des hommes, le privilège exorbitant d'enfanter. La femme est tombée de son piédestal, a été détrônée pour deux raisons. Premièrement, on a constaté que son pouvoir était inopérant sans l'acte sexuel et le sperme de l'homme. Et on a compris que c'est l'homme qui est le géniteur. Donc, on en a déduit qu'il a le rôle principal, déterminant, ce qui lui confère par conséquent une supériorité, la supériorité, et par suite, la domination, le pouvoir sur l'autre sexe. Deuxièmement, elle a été détrônée avec l'avènement de ce que l'on nomme, entre guillemets, la propriété privée. Quand les humains se sont fait sédentaires, agriculteurs, puis éleveurs, se sont attribués des terres personnelles et non plus collectives. Cela est arrivé quand, un jour, un homme eut l'idée de tracer sur le sol un cercle fermé, ou un carré fermé, comme vous voudrez, et a dit « Ceci est mon champ, ceci est à moi ». Et l'homme, propriétaire, installé, conquérant, seul tout-puissant sur sa terre, tient à la conserver au point qu'il veuille qu'elle lui survive après sa mort. Sauf que cette survivance ne se réalise que si la propriété reste aux mains du possesseur, dixit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. C'est-à-dire à ses propres enfants issus de lui. Or, les enfants ne lui sont donnés que par le truchement d'une femme. Il s'associe donc à une femme. Cette femme sera l'instrument pour assurer sa descendance. En Afrique, on dit qu'elle est la marmite. Elle est donc aussi sa propriété, tel un objet. C'est l'origine du couple, l'origine de la famille. À partir de ce moment, la femme devient un objet d'échange sur le marché matrimonial. La dissymétrie, c'est-à-dire l'inégalité, mais c'est la dissymétrie qu'il faut employer, est donc radicale entre l'homme, sujet actif de la transaction, et la femme, objet passif de l'échange. Par ce contrat, le mariage, au nom de la coutume, en ce qui concerne la France, et non pas au nom de la loi, elle perd son identité, passant du nom du père au nom d'un autre homme, son mari, sauf volonté contraire expresse de sa part de nos jours, si sa conscience est éveillée. Ainsi est née et existe encore la famille où l'homme reste le chef de famille, bien que les avancées féministes, précisément, aient permis d'en sortir en partie. Mais le patriarcat, s'il est d'abord d'ordre privé dans le fonctionnement de la famille, est aussi d'ordre public, car inscrit dans le fonctionnement de la société tout entière, dans toutes les institutions étatiques chargées de gérer et de régler l'existence quotidienne d'un peuple. Par exemple, au temps des rois, au plus haut sommet du pouvoir, les reines en France n'ont pas de fonction. Elles n'ont qu'un titre, reine, parce qu'épouse du roi. Elles n'ont pas le droit de régner. L'ordre de succession au trône de France est exclusivement de mâle à mâle, à l'exclusion des filles. Cela se passe à ce niveau, comme dans la famille de base. Les femmes étaient exclues de la succession au trône. Elles ne pouvaient être que régentes pendant la minorité de leur fils aîné, telle Catherine de Médicis pendant la minorité de Charles IX ou Anne d'Autriche pendant la minorité de Louis XIV. Nous l'avons déjà dit dans un des portraits. Pendant la période révolutionnaire qui a commencé en 1789, la règle a acquis force de loi puisqu'elle a été inscrite dans la première constitution de septembre 1791, instituant non pas une république mais une monarchie constitutionnelle. En son chapitre 2 intitulé « De la royauté, de la régence et des ministres », section première de la royauté du roi, l'article 1 dit, je cite, la royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle à mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Cette disposition discriminatoire a figuré ensuite dans toutes les constitutions monarchiques et impériales. Les constitutions républicaines, quant à elles, parlaient exclusivement au masculin, pour les seuls hommes, jusqu'en 1944, où seul un coup de force, la décision du Conseil national de la Résistance, sous l'impulsion du député communiste Ferdinand Grenier, parvint à imposer le principe inscrit dans la Constitution de la 4e République, celle de 1946. Ce principe qui dit « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Alors, les États modernes, comme c'est le cas de la France, dixit Pierre Bourdieu, je cite Pierre Bourdieu, ont inscrit dans leur législation, dans le droit de la famille, dans l'état civil, dans la justice, dans le fonctionnement de l'école, tous les principes fondamentaux de la vision androcentrique masculine virile. Dans le langage aussi, dans la langue parlée et écrite, est inscrite la suprématie masculine. Le masculin l'emporte sur le féminin, nous assène-t-on, lors de l'apprentissage des règles grammaticales, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. On le voit bien, le travail de l'extinction du patriarcat ou de son dépérissement, comme dit Pierre Bourdieu, est immense. Alors, nous sommes arrivés au bout de cette première émission et nous poursuivrons cette introduction le mois prochain et nous aborderons la première partie. La première partie, les féministes pionnières. Voilà.
Merci Jacqueline. Et on se retrouve donc le mardi 3 octobre à 9h sur cette même antenne 99.3. Merci beaucoup. Et
merci.
On retrouve évidemment cette émission en ligne dès aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous.